Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1.
14h-15h.
La voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix et Livre. Cette semaine, c'est le grand retour de Philippe Delerme en librairie avec une sacrée bonne idée de livre, vous verrez. Nous visiterons une bibliothèque, évidemment celle de Mathias Malzieu aujourd'hui, sur un bateau. Et oui, Christophe Daniel, notre libraire, nous donnera quelques bonnes idées de lecture et Sébastien Bordenave fermera la boutique avec deux bandes dessinées. Mais d'abord, donc, c'est l'invité, La Voix et Livre. C'est parti, premier chapitre. Il y a comme ça quelques plaisirs minuscules dans la vie, la première gorgée de bière, écosser les petits pois, ce genre de choses, et aussi des plaisirs majuscules comme recevoir et bavarder une heure avec Philippe Delerme, qui est l'invité de La Voix et Livre pour New York sans New York, au seuil bien sûr, une idée géniale, vous allez voir. Bonjour Philippe Delerme.
Bonjour.
Vous connaissez bien New York, Philippe Delerme, très bien même si vous n'y avez jamais mis les pieds, et ce serait, dites-vous, prendre le risque de trouver à New York moins que New York. Vous nous expliquez.
Oui, je crois que très souvent dans la réalité, le voyage, les contraintes matérielles sont des choses qui amenuisent les choses, la façon dont on arrive surtout sur des choses. Je pense pas être le seul à fantasmer New York. C'est vrai que c'est une ville sur laquelle on a forcément beaucoup, beaucoup d'images en soi. En plus, bon, dans mon cas, c'était un peu tentant d'aborder ce qu'il y a de plus grand, parce que pour moi, bien sûr, que parfois on m'a dit « mais tu parles comme de la plus grande ville, c'est plus tout à fait la plus grande ville ». C'est toujours ma plus grande ville, et c'est toujours, je pense, la plus grande ville de beaucoup de gens, enfin, par la façon dont on a pu mythifier, rêver sur New York, et tout ça, finalement, c'était tentant aussi pour un écrivain minimaliste, parce que c'est vrai que, justement... Un minimaliste, c'est quelqu'un qui s'attache aux choses en parlant de façon très fractale. Dans un atome de neige, il y a toute la neige. Alors peut-être que dans un atome de New York, il y a un peu tout New York.
Mais pourquoi vous n'y allez pas, tout simplement ?
Pendant longtemps, c'est vrai que le problème ne s'est pas posé. Puisque moi, j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie en 2008 pour les Jeux Olympiques, donc commenter l'athlétisme.
Mais c'est vous en parlez dans le livre.
Seul voyage en avion que j'ai jamais fait de ma vie. Et puis donc, voilà, New York, c'était juste un fantasme. Et il se trouve que là, depuis une quinzaine d'années, j'ai eu pas mal d'occasions, de propositions qu'on m'a faites. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de dire oui, peut-être, mais je suis souvent assez lâche. Dans ces cas-là, je dis peut-être en sachant très bien qu'à la fin, je vais dire non. Et je pense que là, évidemment, les gens qui me proposent de venir à New York depuis longtemps, comme Olivier Barraud, j'ai fait allusion aussi dans le bouquin, à garder cette proposition en tête. Mais je sais que, en fait, je ne dirais pas. C'est vrai que c'est un peu comme si on me proposait de dîner avec Charles Dickens ou avec Marcel Proust. Je sais que j'ai tellement rêvé de New York que voilà, j'y allais pas pour déconner comme téléphone, mais j'y allais plutôt pour retrouver des tas d'endroits, de lieux mythifiés par des acteurs, par des chanteurs, par des écrivains que j'aime. Et tout ça, ça risque forcément d'être un peu amoindri par la réalité.
Par le fait de patienter à la frontière, du bruit,
oui,
des voitures, des
oui,
petites
oui,
contrariétés habituelles des voyages.
Toutes les petites contraintes
voyages,
habituelles qui font que, voilà, qu'on a du mal à pouvoir être à la hauteur de tout ce qu'on a fantasmé. Et puis, voilà, en soi, je pense que c'est un projet assez littéraire, quoi, de faire exister un New York uniquement par le New York intérieur.
Et vous dites que New York, c'est à voir. Et vous mettez « c'est à voir » entre guillemets, c'est cette expression qu'utilisent les gens qui reviennent d'un voyage en disant « c'est à voir ».
Bah oui, parce que c'est, en fait, quand on emploie cette expression, vous savez que j'aime bien les petites phrases comme ça qui sont souvent révélatrices, mais c'est comme s'il y avait une espèce de liste quoi, qui était punaisée quelque part et qu'il fallait, biffer comme ça sur la liste des destinations qui sont presque obligatoires. Les gens qui disent ça, ils prennent un petit recul quand ils disent « c'est à voir », ça veut dire bon, ils n'ont pas été forcément emballés ni déçus, mais simplement ça fait partie des choses qu'il faut avoir faites. Et moi, je pense que très souvent, on a fait les choses sans les faire. On a été amoureux sans rencontrer les personnes dont on était amoureux, on a été amis sans rencontrer les gens avec qui on aurait pu être amis, on a rencontré aussi les villes où on n'a pas été.
Oui, mais ce qui est fou, c'est qu'il y a plein de détails dans le livre. Vous écrivez par exemple, quand vous sortez du MoMA ou quand vous venez de manger un hamburger au Shake Shack, Le Tchèque-Tchèque, c'est un fast-food. Oui. Comment vous le connaissez?
Alors ça, je connais parce que depuis une dizaine d'années, j'accumule des bouquins des atmosphères sur New York et que c'est vrai que ça m'amuse aussi. Bah, par exemple, de parler du MoMA, c'est une chose qui est spécifique à New York. La façon dont les gens parlent des musées de New York, c'est pas le même genre. C'est toujours très, très bourgeois. Les musées, c'est un endroit où vont les gens de la bourgeoisie en général, c'est-à-dire où ils vont constater combien les Lévis qui ne vivent pas sont plus intéressantes que celles qui vivent. Ils récupèrent un petit peu l'art en général. Mais quand ils disent « je vais à la Tate Gallery à Londres ou au Rijksmuseum à Amsterdam », il n'y a pas la même chose que MoMA. Ça a l'air de dire d'abord qu'on s'intéresse à l'art contemporain, ce qui est toujours assez gratifiant en général quand on dit qu'on aime bien l'art contemporain. Mais aussi, il y a une espèce, dans même le mot même, MoMA, ça veut dire je suis familier de ce concept, donc c'est, voilà, ça m'appartient. Et ça m'amuse parce que bon, c'est pour le coup, c'est un petit peu humoristique. Je trouve qu'on a un lien avec ce mot-là et les gens sont fiers de vous le placer.
Oui, mais le MoMA, tout le monde connaît. Le Tchèque-Tchèque.
Ah oui, là, il faut aller chercher dans des bouquins un petit peu plus, un peu plus spécifiques sur New York. Mais j'en ai plein. Hein. J'en ai plein et surtout, j'ai des images. Le bouquin est presque chronologique puisque ça commence avec la première d'entre elles qui est une image
qui date de
mon CE2. Quoi. Carrément, une image comme ça dans la classe de M. Brachet où j'étais au cours élémentaire deuxième année où il y avait un quartier de gratte-ciel. Et c'est des images, vous savez, qu'on mettait dans les salles de classe dans les années 50, 60. Et à une époque où il n'y avait pas tellement d'images, même dans les livres pour les enfants, il n'y avait pas tellement d'images.
Vous me dites ça comme si j'avais été à l'école dans les années 50, 60. Non.
Non, mais justement, je pense qu'en même temps, on a aussi des éléments pour parler des vies qu'on n'a pas eues. Je pense que vous en avez aussi pour rêver sur les années 50.
Oui, en fait, c'est ça votre livre. Ça pourrait s'appliquer à une vie dans une autre époque aussi, qu'on n'aurait pas forcément envie de visiter, mais qu'on adore quand même.
Oui, tout à fait.
Alors, ça donne des phrases proches du non-sens, comme « Dans les choses que je ne ferais délicieusement pas, je garde une tendresse pour Katz Delicatessen, maison fondée en 1888 ». Etc. Ouais. Vous avez bien dû vous amuser aussi du point de vue du langage. Non, est-ce qu'il y avait des difficultés comme ça?
C'est vrai qu'en fait, j'ai eu une espèce de jubilation à écrire ce livre parce que, a priori, c'est dépaysant par rapport à ce que je fais d'habitude. En fait, pas tellement, parce que comme vous le disiez, je l'aborde comme j'adore, j'aborde toujours tout ce que je fais. Mais il y avait comme une espèce de vitalité, d'énergie, je pense, dans le rapport au fait de rêver New York, qui est lié aussi à l'énergie que peut donner cette ville, en fait, ou à l'idée qu'on peut s'en faire, en tout cas. Et qui je pense, est traduite un petit peu, oui, vous l'avez senti dans l'écriture, dans la façon de dire les choses. C'est vrai qu'en plus, parler de la satisfaction qu'on a dans les restaurants où l'on n'a pas mangé, c'est bien sûr encore bien plus grand que d'aller dans n'importe quel restaurant.
C'est un peu l'anti-Madeleine de Proust, ce livre. C'est-à-dire que quand Proust croque dans sa Madeleine, il est renvoyé dans un voyage vers le passé, vers ses souvenirs. Mm-hmm. Et vous, quand vous croquez dans ses idées, dans ses musiques, dans ses noms de restaurants, dans ses vies, dans ses noms de rues, etc., ça vous envoie vers des souvenirs que vous n'avez pas vécu et que vous ne vivrez pas, mais qui sont pas moins réels. Mais on y revient dans un instant.
La voix est libre.
Nicolas Caro.
Well, it ain't no use sit and wonder why, baby. Retour dans La Voix est libre, toujours avec Philippe Delerme pour New York sans New York aux éditions du Seuil. Un livre dans lequel Philippe Delerme raconte comment il adore New York, il idéalise New York et que pour cette raison, il n'ira jamais. Ce serait prendre le risque d'être déçu. Mais ça ne l'empêche pas d'être nourri par toute la culture, les photos, les films et la musique new-yorkaise. Et on ne perd jamais une occasion dans La Voix est libre de passer du Bob Dylan. Et vous m'avez tendu la perche, puisque je passe cette chanson parce qu'elle fait partie des quatre qui se trouvaient sur le 45 tours intitulé Blowing in the Wind, qui est aussi une grande chanson. Là, j'ai choisi Don't Think Twice, It's Alright, parce que c'est ma préférée, avec une pochette mythique qui est aussi celle de l'album The Free Willing, et sur laquelle, que voit-on, Philippe Delerme?
Ouais, ça, c'est une image que j'ai été très, très content d'avoir dans ma chambre d'adolescent à une époque où on rêvait souvent sur les disques et sur les pochettes de disques et sur l'acquisition des disques qu'on n'avait pas encore. Cette image, elle était franchement en crâne, quoi. C'est-à-dire Dylan dans une rue de New York avec une fille à son bras. D'ailleurs, mon fils Vincent, qui est quand même assez spécialiste de tout ce qui concerne la chanson, m'a dit le nom de cette fille, d'ailleurs. Alors là, je trouve qu'il est très fort. Mais pour moi, c'était voilà, la fille qui tenait Bob Dylan par le bras dans une rue enneigée de New York, avec ce disque Blowing in the Wind. Et puis, bon, c'est vrai que Don't Think Twice, It's Alright, je suis d'accord avec vous. C'est très beau. Et c'est,
je suis sûr que vous la jouez à la guitare en plus.
Oui, c'est vrai. Ah. C'est vrai. Et d'ailleurs, j'ai même joué les versions françaises aussi, puisqu'il y avait eu un disque.
Gaufret
qui avait chanté. Mais N'y pense plus, tout est bien en français, c'est pas si mal. Hein. C'est un disque qui était assez bon. Girl of North Country, c'était aussi une bonne traduction. Enfin, il y avait des équivalences qui étaient chouettes.
If you're going to the North Country.
When the wind will be on the borderline. C'est vrai que c'était une façon alors aussi d'être sensibilisé à toute une époque de rébellion. Dans mon cas, vous imaginez que la rébellion était relativement douce, un petit peu. Mais c'est vrai que c'était le protestant quand même. C'était quand même le contenu, c'était une façon de dire en chanson une révolte contre la société. Et c'est vrai que Dylan, il incarnait ça avec une espèce en plus d'insolence. Enfin, sur cette pochette de disque, il a les mains dans les poches, il neige dehors, il a cette petite veste qui est bien trop légère. On sent qu'il se pèle de froid, mais en même temps, il a l'air crâne. Il ne regarde pas l'objectif, contrairement à la fille qui est avec lui. Ouais. Il a l'air déjà un peu supérieur à ce qui lui arrive.
Ouais, avec l'air de dire, ouais, je sais que je fais l'andouille devant un photographe.
Voilà.
Alors,
ouais, deuxième degré déjà. Et puis après, ça donnait plein d'espoir parce que, bon, c'est vrai que sur Blowing in the Wind, les petites bouffées d'harmonica sont quand même assez approximatives et on peut envisager de faire aussi bien si on s'y met un peu, quoi.
Et alors, justement, ça illustre bien l'idée de ce livre, c'est-à-dire qu'on comprend très bien quand on voit cette photo comment on peut effectivement se balader dans New York sans y aller, c'est-à-dire rien qu'avec cette photo. Et on ne voit pas grand-chose de la rue, parce que donc en premier plan, il y a le couple, on ne voit pas grand-chose, mais c'est vrai que tout à coup, paf, on est projeté dans un New York un peu rêvé.
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, et ça a été le cas aussi avec une autre photo qui était dans ma chambre d'ado et qui était un poster de James Dean, une photo hyper célèbre où il marche sous la pluie dans Times Square avec le col relevé et où il a vraiment... Moi, j'ai fait un rapprochement avec Antigone parce que l'Antigone d'Anouilh, hein, plus que celle de Sophocle, c'est-à-dire le fait d'avoir dit non à tout, quoi. On sent que dans ce personnage, ça c'est New York, mais c'est James Dean dans New York, c'est une image qui est célébrissime, mais c'est donc une façon aussi d'être dans New York en étant en rébellion, comme Dylan ou comme James Dean, ou peut-être même comme dans les films de Woody Allen aussi, parce que finalement, voilà.
Ah bah tiens, justement.
Chapitre 1.
He adored New York.
Il adorait New York.
He idolized
it. Il l'idolâtrait au-delà de toute mesure. Il romançait New York au-delà de toute mesure. Et pour lui,
c'est le tout début du film Manhattan avec le montage exceptionnel de Boris Paczynski qui nous a mixé la VO et la VF. Hein, magnifique.
Ah oui, super.
Et vous en parlez dans le livre. Qu'est-ce que vous appelez le New York de Woody Allen?
Le New York de Woody Allen, c'est pour moi Woody Allen est l'incarnation vraiment d'un New York qui ne serait pas du tout sûr de soi, arrogant, massif. Mais bon, le New York de quelqu'un qui est toujours inquiet, toujours complètement fébrile, toujours en train de débiter des blagues à la mitrailleuse.
Et qui trépigne comme New York, en fait.
Oui, et voilà, je trouve que c'est une incarnation de New York qui est extrêmement juste. Parce que forcément, la plus grande ville du monde, c'est une ville aussi qui doit être inquiète d'être dans le présent, d'être toujours soumise aux aléas de la bourse, de Wall Street à ouvert, machin. On sent qu'il y a une inquiétude que Woody Allen dit à la perfection. Puis Woody Allen, je dois dire que le personnage me séduit comme je peux être séduit en chanson par Alain Souchon. C'est-à-dire, ce sont des gens qui nous ont appris qu'en étant fébrile, inquiet, pas sûr de soi, on pouvait être aussi très séduisant en même temps. On peut vraiment leur dire merci parce que tout d'un coup, ils ont créé aussi un type d'homme et un type de séduction tout à fait nouveau. Et je trouve que c'est gratifiant pour New York d'être incarné de cette manière-là. New York ne peut pas être incarné par le côté rassurant de John Wayne, mais il est parfaitement incarné par l'inquiétude de Woody Allen, je trouve.
Vous parlez de vous aussi, et on évoquait James Dean tout à l'heure. On apprend que vous avez lu, quand vous étiez plus jeune, tous les livres de James Dean, enfin quand il parle de l'acteur studio, de
ah oui, oui, livre qui, tout ce qu'il évoque, notamment son rapport avec son expérience de l'acteur studio. Ça, c'est une chose qui m'a bien fasciné, parce que quand j'ai vu La Fureur de Vivre, j'étais fasciné par cette façon comme ça d'être complètement presque traumatisé de timidité et en même temps révolté. Et on sent que ça tout se passe à l'intérieur, que les personnages sont créés comme ça. Et ça, je sais que c'était vraiment la thèse de l'acteur studio, de travailler les personnages en étant intérieurement, pas du tout dans la façon de bouger ou l'habillement, mais à l'intérieur de soi, comme ça. Je trouve que Montgomery Clift a ça aussi, tout à fait, cette espèce d'intériorité névrosée, et parfois aussi, même Marlon Brando dans Sur les quais, par exemple. Enfin, tout ça, c'est vraiment l'acteur studio, c'est-à-dire une façon d'être au monde en étant complètement replié, recroquevillé, complètement intérieur. Mmh.
Vous étiez parti pour Hollywood, en fait, à cette époque-là?
Non.
Pour aller tenter votre chance?
Non,
je viens de m'imaginer, en fait, Philippe Delerme en haut de l'affiche d'un blockbuster américain.
surtout pas Hollywood, mais c'est vrai que Hollywood, justement, puisqu'on parle de Woody Allen, dans Annie Hall, par exemple, qui est un des films les plus incontestés de Woody Allen, il y a une espèce de caricature de Hollywood où sa copine va essayer de devenir chanteuse et qui est présentée comme étant vraiment presque l'anti-New York, en fait. Presque le contraire de tout ce qui se passe d'intellectuel et de vivant à New York.
Il y a le film de Woody Allen aussi, Hollywood Ending, l'histoire d'un réalisateur qui est aveugle et qui donc fait un film raté et tout le monde déteste, sauf les Français. On se retrouve dans un instant, Philippe Delerme, à New York.
14h-15h sur Europe 1.
La Voix est libre.
La Voix est libre, New York sans New York. C'est le nouveau livre de Philippe Delerme aux éditions du Seuil. Philippe Delerme n'est jamais allé à New York, n'ira sans doute jamais, pour éviter d'être déçu, tellement il aime et il idéalise cette ville qu'est New York. Et vous la visitez par les livres, par les images. Et surtout, oui, par les écrivains, en fait. Vous parlez aussi beaucoup des écrivains dans ce livre. Quelle est la plus-value, pardon pour le mot, de la littérature pour visiter New York?
Moi, je pense que c'est vrai que j'étais sensibilisé à New York, comme toujours un peu par hasard. Par exemple, j'étais sensibilisé à l'œuvre poétique de Walt Whitman par l'intermédiaire du film Le Sac des Poètes Disparus, qui a été pour moi un film très important, comme on peut l'imaginer, début des années 90. Bon, moi, je suis un prof de lettres qui aime bien avoir certaines libertés aussi dans sa façon d'enseigner, et qui forcément trouve extrêmement fascinant le professeur de lettres qu'on présente dans Le Sac des Poètes Disparus, et qui est toujours en train de citer Walt Whitman. Et moi, je ne connaissais absolument pas Walt Whitman quand j'ai vu ce film. Et donc, je me suis...
Capitaine, mon capitaine.
J'ai parfois d'anciens élèves qui m'écrivent « Oh, capitaine, mon capitaine », on ne peut pas me faire plus plaisir que de me dire ça, parce que c'est vrai que j'étais un sale copieur à ce niveau-là. Mais
vous leur faisiez faire ça? C'est-à-dire « capitaine, mon capitaine » en montant sur la table?
Non, je ne les fais pas monter sur la table, mais par contre, je leur faisais regarder le film. Et c'est incroyable à quel point les adolescents étaient frappés par ce film et à quel point ça rentrait en eux. Et c'est vrai que dans ce film, il y a ce qui était pour moi ma définition d'enseignant. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le professeur Keating rassemble ses élèves autour de lui. Il parle de la vie en disant que la vie, c'est moche, mais qu'est-ce qu'il y a de bien dans tout ça? La réponse, c'est Walt Whitman qui la donne, que la vie existe et l'identité, que le fabuleux spectacle continue et que tu peux y apporter ta rime. Quelle sera votre rime, messieurs? Et ça, cette phrase-là, moi, je l'avais mise dans ma salle de classe, parce que quelle sera votre rime, je trouve que c'est une phrase merveilleuse. Ça veut dire que, voilà, on peut se réaliser de toutes les façons, mais il faut se réaliser, quoi. Ça, c'est une devise pour un enseignant en lettres qui est magnifique.
Mais alors, les écrivains, qu'est-ce qu'ils apportent dans la visite d'une ville? Et les poètes, en général.
Oui, notamment, pour ce qui concerne Walt Whitman, j'étais très, très surpris, parce que les années passant, donc les gens ont su un petit peu que je m'intéressais à Walt Whitman. On m'a proposé de faire la préface d'un livre de Walt Whitman, d'un recueil de Walt Whitman, dans lequel c'était un choix de son recueil le plus connu, Feuilles d'herbe, dans lequel il n'y a pas un poil de New York. Et ça, c'est arrivé assez souvent dans les traductions occidentales de Walt Whitman. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est tellement dans l'élan, comme ça, le fait de partir sur la route. Ça rejoint des mythes un petit peu, c'est un peu comme Stevenson quand il parle dans les Cévennes avec son âne. C'est vraiment le fait d'avoir une liberté absolue. Et c'est en soi un côté bucolique, en fait, cette forme de liberté. Et du coup, j'étais stupéfait de me rapprocher davantage de l'œuvre de Whitman et de savoir que c'était en fait un pur New-Yorkais qui parlait énormément de New York. Mais quand il parle de New York, on a l'impression que c'est la campagne, parce que c'est un souffle comme ça, c'est le port de New York, c'est les bateaux. Et puis, il parle du mot, l'origine indienne du mot Manhattan, et visiblement, qui se prononçait peut-être plus facilement que Manhattan, qu'on a beaucoup de mal à prononcer quand on est français.
Voilà, vous en parlez du H aspiré pour les Français, qui est un peu compliqué.
Nous, on ne peut pas aspirer, vraiment. On peut aspirer à New York, mais on ne peut pas vraiment aspirer le mot lui-même, parce que c'est pas dans nos gènes de linguistiques, en fait.
Et puis, vous en profitez pour faire un clin d'œil à nouveau, parce qu'il doit être à peu près dans... les deux tiers de vos livres, un clin d'œil à Bartleby.
Ah oui, c'est vrai. Alors Bartleby, c'est vrai que c'est un mythe que beaucoup d'écrivains aiment, puisque là, je parlais de James Dean, qui est un peu Antigone, qui refuse. Et oui, Bartleby, qui est dans cette nouvelle de Melville, c'est vraiment le symbole du refus, puisque c'est quelqu'un qui dit « j'aimerais mieux pas ». Et « I would prefer not to ».
Et qui donc, il dit « j'aimerais mieux pas ».«
J'aimerais mieux pas ». Et voilà, donc, et en plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est une histoire qui se passe à Wall Street. Et Wall Street, c'est précisément le bureau de Bartleby, puisqu'il est devant un mur. Et qu'en fait, ce Wall Street, qui est tout l'espoir libéral et capitaliste du monde, en fait, c'est aussi une histoire de mur et d'aller dans le mur, finalement, quelque part.
En fait, je vous ai imaginé en train d'écrire le livre et de vous dire « Oh, mais au fait, je peux mettre du Bartleby encore, là !» C'est
oui,
Wall Street.
C'est vrai que les choses sont venues un petit peu comme ça, et c'est ma vie qui m'a apporté à toutes les époques en fait des éléments new-yorkais, alors qui sont les miens, parce qu'il y a aussi plein de New York dont je parle pas du tout et que je connais pas du tout, et puis un New York notamment des années peut-être 80-90, un cinéma que je connais moins aussi, et voilà. Donc bien sûr c'est un choix complètement subjectif et complètement personnel.
Et même le marathon de New York, vous, le coureur de fond, vous ne le courrez pas.
Non, en fait, j'étais plutôt un coureur de sprint long que de fond, plutôt 400-800 mètres. Et le marathon, de toute façon, ça a toujours été trop long pour moi. Mais le marathon, c'est vrai que c'est une discipline que j'ai toujours beaucoup admirée. Et elle est quand même très, très new-yorkaise, parce que le fait de courir d'abord tout le temps dans les parcs comme ça, c'est très new-yorkais. Je m'amuse de ce dessin génial de Sampé dans son album sur New York, où il monte Central Park, où tout le monde court. Et il y a un petit couple qui marche et il y a une voiture de police qui s'arrête à côté. Et qui leur demande, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que c'est vrai que, bon, il y a certaines heures dans le Luxembourg où c'est pareil.
Ouais, ouais, ouais.
Donc, et ça, c'est venu quand même de New York. Et même tous les grands marathons du monde sont venus après celui de New York, qui s'est pas d'ailleurs couru tout de suite dans les cinq boroughs, dans les cinq grands arrondissements de New York, mais d'abord à Central Park.
Vous parlez du 11 septembre, bien entendu, et vous y décelez ceci. La plus grande ville du monde subit sa plus monstrueuse tragédie. Ça change tout, fausse tout. Une seule ironie demeure et elle suffit. Il faisait beau le 11 septembre 2001. Ça, et c'est vous parlez d'une photo que je connais pas.
Oui, c'est une photo qui est assez célèbre, qui montre, en fait, de l'autre côté de l'Hudson, on voit un groupe de jeunes qui sont installés, comme on peut l'être quand on est jeune, de toute façon, d'une façon un peu décontractée, comme ça. Et on voit au loin les deux tours qui sont en train de flamber. Et en fait, cette photo, elle a été ressentie par les gens comme ils s'en foutent, quoi. Pendant que les tours brûlent, ils s'en foutent. Et il y a un des personnages de la photo qui a dû intervenir, parce qu'à force de voir sur Internet cette façon de traduire leur attitude, il a répondu, mais non, on s'en fichait pas du tout, mais simplement, on était là, fascinés. Et la photo, ça peut être terrible, parce que c'est vrai que... je fais le rapprochement avec le fait que dans l'enterrement de quelqu'un, on peut prendre aussi la photo de quelqu'un qui est en train de sourire et dire aussi, il s'en fout. Et puis, ça peut être complètement injuste et même scandaleux, quoi.
Tout le monde va vous le dire, mais bon, je vous le dis quand même. Vous avez pensé aussi à l'idée que peut-être c'est encore mieux que ce que vous idéalisez et que vous pourriez être surpris en bien, comme disent les Québécois.
Surpris en bien, oui, j'aime bien cette expression. En fait, il y a une donnée qui n'est évidemment pas dans mon livre, et j'en parle aussi pas mal, c'est l'absence de bruit. Puisque donc, je crois que c'est une ville où il y a une rumeur quand même qui est énorme, et dont évidemment les différents niveaux font partie aussi de l'essence de la ville. Donc j'essaie de l'imaginer, mais là c'est pareil. Essayer d'imaginer, pour moi, c'est aussi fort que de connaître, en fait. Et c'est vrai un petit peu dans tous les domaines de la vie. C'est vrai, et c'est bien aussi d'avoir gardé cette idée que ça pourrait être mieux. Mais moi, je l'ai aussi pour beaucoup d'endroits désormais, puisque maintenant, je suis un vieux monsieur, j'ai 71 ans, et que je renonce à aller dans beaucoup d'endroits dont je sais qu'ils me plairaient, parce que j'ai l'impression que je ne pourrais plus désormais y avoir des habitudes. Je sais que l'Irlande ou l'Écosse me plairaient, mais je n'ai pas envie d'y aller parce que je n'ai pas le temps d'y avoir des rites et d'y revenir assez souvent pour que ça ait un sens. Et donc, dans ces cas-là, je préfère continuer à simplement à rêver.
Eh bien, nous aussi, on visite une bibliothèque dans un instant. C'est sur une péniche, c'est celle de Mathias Malzieu.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre, toujours avec Philippe Delerme pour New York sans New York, son nouveau livre au seuil, un nouveau roman aussi pour Mathias Malzieu, le chanteur, cinéaste et écrivain, signe chez Albin Michel, Le guerrier de porcelaine. J'avais envie de visiter sa bibliothèque depuis longtemps et j'ai bien fait parce que j'ai été surpris de constater qu'il vivait sur un bateau. Chouette, chouette, embarquons. Bonjour Mathias Malzieu.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous. Alors heureusement, Fabien Duchesne, l'ingé son, a le pied marin, parce qu'on est sur un bateau, on est sur une péniche.
On est sur une péniche, ouais, c'est un rêve d'enfant. J'ai toujours rêvé de bateau et de cabane, toujours, mais toujours, toujours. Ça a influencé d'ailleurs mon rapport à la littérature. Mark Twain a été un de mes premiers flashs, et c'est vrai que...
Qui a été batelier, Mark Twain, l'auteur de Tom Sawyer.
Oui, puis il y avait ce côté aussi Tom Sawyer avec la cabane, tout ce truc-là. Et puis c'est vrai que je me rappelle, même enfant, les premiers souvenirs en vacances, d'avoir un petit bateau pneumatique avec une pagaie, et pouvoir la sensation de liberté que de regarder le large et d'être seul, c'est toujours un truc, même quand je quittais la côte de seulement 10 ou 15 mètres à l'échelle de ma taille de l'époque, qui n'a pas énormément changé finalement, que je fais qu'à 66,5. Il y a tout de suite eu quelque chose de très particulier. J'ai eu l'appendicite, mon père m'avait acheté un petit chalutier, il m'avait appris à dire la quille, le bastingage, tous ces trucs-là. Et ça s'est retrouvé d'ailleurs dans le guerrier de porcelaine. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses dans le guerrier de porcelaine c'est son histoire et des fois c'est la mienne avec lui. J'ai fait des mélanges entre les deux transmissions finalement.
C'est une cabane quand même très chouette, rouge et blanche, avec des portes qui ressemblent à celles de la maison du Hobbit,
ouais,
toute ronde,
ouais.
Très marrante. Et puis alors il y a des livres un peu partout, il n'y a pas une grande bibliothèque.
Ouais, y a des livres partout.
Avant de partir lire, est-ce qu'on peut écouter un peu de musique? Parce que vous avez un appareil très étrange qui s'appelle un gramophone, avec un pavillon énorme pour lire des vinyles au début du XXe siècle.
Alors, quoi. C'est même pas des vinyles, c'est encore avant. Parce que c'est des disques donc, qui sont en pierre. C'est pas encore des disques souples. C'est avant le disque souple, c'est le 78 tours. Et ouais, je vais vous mettre
ça. Et il marche.
Ah ouais, il marche. Attendez, je vais vous mettre ça.
Donc là, vous remontez la manivelle. Et oui, il faut remonter le ressort manuellement, en fait.
Ouais.
Ce sera le moteur.
La route est un long ruban qui défile et se perd à l'infini, loin des villes. Le routier à son volant, qui te rapide, n'a jamais, jamais le temps de regarder le firmament.
Ça envoie, il y a du volume. Hein.
Ah, oui.
C'est une lutte contre le MP3 ou
pas du tout.
Ou c'est les deux?
Non, c'est pas une lutte contre le MP3 parce que tout doit pouvoir coexister. C'est vrai que moi j'ai un plaisir des objets. J'ai un label de vinyle aussi. D'ailleurs, ce petit siège œuf que tu vois là. D'ailleurs, il y en a deux. Il y en a un qui est en réparation. En fait, on enregistre des disques à l'intérieur. C'est des Eggman Records. C'est des disques blancs et rouges comme l'œuf. C'est l'œuf sur le plat de l'œuf. Et donc, j'adore ce côté vinyle. Tu vois, j'en ai plein. J'adore ça. J'ai plus trop de CD. Mais par contre, j'ai un smartphone comme tout le monde et j'écoute de la musique sur mon smartphone aussi. Donc, c'est pas juste c'est toujours pareil. C'est une oscillation, c'est un équilibre. Je pense que être que dans le passé, ça virerait à l'obsessionnel. Par contre, j'ai un goût, ouais, pour les choses du passé. Ouais. J'ai un goût, mais ça ne me ferme pas aux choses du présent ou même du futur.
Il y a des figurines de jouets un peu partout. Là, on est dans votre bureau. Il y a un chapeau de cow-boy.
Ouais.
Vous avez vous-même un pull avec Yoda dessus, parce que quand vous étiez petit, vous étiez un Jedi.
Exactement.
Et puis on a toutes vos guitares qui sont accrochées au mur.
Oui, alors ça, c'est une guitare Kalamazoo. C'est une guitare de blues qui date de 58. Elle est hyper rousse, elle a un gros manche, elle est dure à jouer. Mais,
Rien qu'en la voyant, on se dit qu'elle sonne années 50. Ouais.
Ah ouais, elle a vraiment un son. Tu veux que je joue un peu?
Ah ouais.
Elle a cordé extrêmement grave pour qu'elle sonne vraiment hyper rousse, celle-là.
Donc là, oui, j'ai pas dit, il y a un hamac qui traverse la pièce, donc vous êtes assis sur le hamac.
Tu veux
Monsieur.
On a des privilèges hein, comme journaliste. Hein. C'est-à-dire qu'on est chez Mathias Malzieu, il nous joue un peu de sa guitare des années 50 et en même temps, il y a un canard qui passe devant le hublot de la péniche.
Ouais, c'est ça.
Ouais, ouais, c'est bien.
Ça, là, t'as la mandoline, là, t'as le ukulélé baryton. Là, c'est un cadeau de Daria. C'est la même guitare que Kurt Cobain.
La Fender Mustang.
Voilà, alors c'est une d'époque, c'est pas la sienne, mais c'est pas une réédition, c'est vraiment une d'époque. Et là, c'est que des cadeaux de Daria, en fait. Ça, c'est le dernier. C'est la
Daria, qui est votre compagne. Daria Nelson, avec qui vous avez publié notamment un recueil de poèmes.
Tout à fait. Et on était venu chez toi.
Ouais, effectivement.
Et c'était cool. Alors ça, c'est un autre délire, quoi. C'est vraiment la guitare classique. Là, c'est plus pour ma Leonard Cohenite, quoi. Là, c'est vraiment... classique, j'en suis jamais trop, je n'ai jamais mis dans mes disques alors que j'adore voilà, Cohen, Calexico, les choses comme ça.
Bah, c'est à dire que quand on apprend et qu'on est gamin, c'est la guitare classique, c'est pas le truc le plus fun parce qu'on peut pas trop jouer du rock,
ouais.
Mais quand on sait jouer du rock, ensuite on y revient,
c'est ça.
Tenez, je vous rends le micro.
Là, j'ai le petit balalaïka aussi qui vient d'Ukraine. Alors, ça, c'est génial aussi, hein. C'est vraiment
en triangle,
c'est un truc de fou. Le balalaïka, alors je débute un peu, hein, mais.
Grelots sur la tête.
Ça, je pense faire des riffs un petit peu de blues et mettre des samples de hip-hop ou des choses comme ça dessus, ça va être très très cool pour faire du contraste avec un son très brut.
Et ça, c'est un ukulélé électrique ?
Ouais, ukulélé Fender aussi, c'est Daria qui m'a trouvé ça aussi, incroyable. Ça sonne très très bien.
Excellent. Et vous avez parlé de Leonard Cohen, ça me fait une bonne transition parce que je vois un livre par terre sur Leonard Cohen,
oui.
De Leonard Cohen, je sais pas. C'est un beau livre de Philippe Girard.
Ouais, c'est une BD
en fait.
C'est une BD sur Leonard Cohen, sur sa vie. C'est une espèce d'autobiographie version BD qui pourrait donner lieu à un film assez facilement. Ça, c'est bien fait.
Vous avez toujours été Leonard Cohen ?
Ouais. En fait, au plus noisy. De ma période rock'n'roll qui se terminera jamais hein, de toute façon, j'ai toujours eu ce truc d'écouter aussi des choses très folk. J'avais un syndrome un peu Neil Young, quoi, c'est-à-dire que pour avoir des choses très folk et des choses très bruyantes. Donc même quand j'écoutais beaucoup Sonic Youth, des choses comme ça, mais j'écoutais aussi Leonard Cohen ou du blues du Mississippi, des choses comme ça. Et Leonard Cohen, ça me fait un effet feu de cheminée, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc, ça me fait du bien. Dès qu'il se met à chanter, qu'il commence un arpège de guitare, il y a quelque chose qui se détend. Moi, je sais pas pourquoi, mais il y a un truc en moi qui... C'est vraiment... J'ai un rapport très organique à lui. Et puis...
Et en même temps, c'est un peu dangereux, Leonard Cohen, parce qu'il y a quelque chose d'hyper mélancolique, quoi.
Ouais,
c'est faire sombrer, quoi.
Ouais, ouais, c'est très mélancolique. Et en même temps, il y a... Je sais pas pourquoi, ça m'enveloppe et ça me fait du bien.
Rien à voir, mais il faut absolument qu'on parle d'un auteur que je vois là. Enfin, c'est pas lui. C'est sa fille.
Ah, Brötigan. Oui.
C'est Richard Brötigan,
oui.
Dont vous êtes un admirateur, moi aussi,
oui.
Qui est un poète américain des années 70, 80.
Ouais. Moi, ça a changé mon rapport à l'écriture, un petit peu comme quand j'ai découvert Nirvana quelque part. C'était comme Nirvana par rapport au rock, il portait pas de maquillage, il y avait un côté brut, il pouvait y avoir de la noirceur, il pouvait y avoir de l'humour aussi et du décalage, il pouvait y avoir cette culture à la fois brutiste, mais aussi folk, mais aussi les Beatles. Enfin, il y avait une ouverture et une curiosité et une façon d'embrasser les choses très brutes et très fortes qui m'a touché. Je le dis maintenant avec un peu de recul d'adulte, mais à l'époque, ça m'a touché. Et Brötigan, ça m'a fait le même effet. Je venais de découvrir Boris Vian. Et pour moi, ça a été le pendant anglo-saxon de Boris Vian. C'est-à-dire que ça ne se prenait pas au sérieux et ça le faisait très sérieusement. C'est-à-dire que ça travaillait très très fort ses tournures, ses choses, mais il y avait une dimension ludique. Et même dans les choses les plus mélancoliques, voire les plus sombres, il y avait du jeu. Donc il y avait du mouvement tout le temps, dans toutes les formes. C'est-à-dire que Brötigan, il y a des romans qui ressemblent à des poèmes, il y a des poèmes qui pourraient être une graine de mini-roman. Enfin, tout se mélange, tout est en mouvement tout le temps. Il y a une espèce de douceur, une bienveillance qui se crée de ces livres, qui est très particulière, et je ne saurais pas dire quoi de plus, mais il y a un parfum, il y a quelque chose de très particulier,
t'en connais et qui, moi, m'accompagne cœur, tout le temps. Tu connais certains poèmes par cœur ou pas ?
Oui, je dois en connaître par cœur, mais là, au point de les connaître par cœur là maintenant tout de suite.
Et t'as pas la somme de 900 pages qui traîne ?
Si, bien sûr, ils sont dans la chambre. Ah, celui-là, ouais. Si, je suis arrêté dessus parce que je l'adore.
Alors on l'a retrouvé, mais en version numérique sur le téléphone.
Ouais. Portrait d'une jeune promise pendant sa lune de miel. Le désir dans ses yeux est assis à califourchon sur un cheval à bascule. Ses seins sont comme des petites tasses à thé. Et son vagin est une cloche de Pâques. C'est quand même hyper mignon. C'est de...
Un autre.
C'est ce qui est génial, c'est le... même dans l'érotisme, il est drôle.
Ouais, il est drôle.
C'est,
Ça désamorce du coup la gravité.
Exactement. Il y a toujours un jeu. Il y a toujours un jeu. Mais le problème du jeu, c'est que des fois, ça peut mettre un filtre avec l'émotion. Et lui, jamais.
Au contraire.
C'est-à-dire que ça, au contraire, ça...
Catalyseur.
C'est exactement, c'est ça.
L'autostoppeur de Galilée.
Ouais.
Ça, c'est Jésus qui monte en stop.
Ouais. L'autostoppeur de Galilée. Baudelaire, partie 1. Baudelaire conduisait un modèle A à travers la Galilée. Il prit un autostoppeur nommé Jésus, qui s'était tenu au milieu d'un banc de poissons, leur donnant des morceaux de pain à manger. « Où est-ce que vous allez ?» demanda Jésus en s'asseyant sur le siège avant. « Anywhere, anywhere, out of his world !» s'écria Baudelaire. « Je vais avec vous jusqu'au Golgotha, » dit Jésus. « J'ai une place réservée pour le carnaval là-bas. Et je ne dois pas être en retard. » Baudelaire était assis sous un porche avec un poivreau des bas-fonds de San Francisco. Le poivreau était âgé d'un million d'années et se souvenait des dinosaures. Baudelaire et le poivreau buvaient du muscatel pétri. « Il faut toujours être ivre, » disait Baudelaire. « Je vis dans l'hôtel américain, » disait le poivreau. « Et je peux me rappeler les dinosaures. »« Enivrez-vous sans cesse, » disait Baudelaire. On rit tout le temps, mais c'est pas un rire de gag ou de blague. C'est pas un rire de seulement de parodie. C'est un rire qu'il invente. C'est un rire doux. C'est un rire où on sourit, où ça nous fait du bien au cœur et au cerveau, et ça fait passer un peu de cœur dans le cerveau parce qu'on désintellectualise. C'est un alchimiste marrant, quoi, et qui transformait sa mélancolie, qui lui a quand même coûté la vie au final.
Parce qu'il s'est suicidé,
qu'il a sans doute parce qu'il a peut-être un petit peu trop forcé sur l'alcool. Mais il nous en a donné et pour toujours cette espèce de mixture assez incroyable et qui moi m'a porté pour écrire parce que je me suis senti cousin d'esprit et je trouve qu'il y a, je sais pas ce que t'en penses, que je sais que tu apprécies aussi beaucoup Boris Vian. Pour moi, il y a un vrai cousinage avec Boris Vian.
Ah, complètement, c'est le cousin français.
Ouais.
Mais justement, j'allais y venir à Boris Vian parce que j'en ai vu aussi un peu partout. On s'est rencontrés dans une émission spéciale de La Voix et Livre qu'on avait fait au De Mago, qui organisait des soirées Boris Vian.
Deux jours avant le confinement.
Pour l'anniversaire, deux jours avant le confinement. Qu'est-ce qui se passe avec Boris Vian ? Comment ça a commencé ?
Bah, Boris Vian, c'est génial comme histoire parce que c'est justement mon époque où je lis encore pas beaucoup. Je viens de découvrir Nirvana, les Pixies, Sonic Youth. Je suis en train de rêver de monter un groupe. J'ai pas encore commencé Dionysos. J'ai 18 ans et je sors avec une Chloé qui me donne l'écume des jours parce qu'elle me dit, bah, mes parents m'ont appelé Chloé
à cause de ce bouquin.
Et puis bon, bah, moi je suis dans, voilà, elle doit avoir 15 ou 16 ans et moi 18, et elle est trois fois plus mûre que moi, comme à l'époque c'est quand même assez courant, hein. Nous les garçons, on a sur cette époque là si tant est qu'on rattrape le temps, en tout cas sur ce moment-là, on est très très en retard, souvent par rapport aux demoiselles. Et donc elle me plaque sans doute pour un mec beaucoup plus vieux ou un peu moins bête que moi à l'époque. Et je ne lis pas le livre. Et puis quand même, elle me manque un peu cette Chloé, donc finalement je me mets à lire le livre. Comme parce que c'est elle qui me l'a donné, quoi. Et là, je prends un flash complètement de joie sur ce livre. Et à partir de ce livre, je commence à en lire d'autres, à découvrir sa musique, ses poèmes, et à voir l'espèce de chasse au trésor que c'est que de se plonger dans l'œuvre de Vian, que je n'ai pas pu tout lire déjà, parce que c'est, enfin, je pense qu'il faudrait, je sais pas comment il a fait pour lui en l'écrire aussi vite, mais pour le lire, pour tout lire, pourtant j'en ai lu beaucoup. Hein.
Et les romans, et les chansons, et les nouvelles, et les traductions.
Et les pièces de théâtre, et les essais aussi. Les essais sur Saint-Germain qui sont géniaux, En avant la Zizik, tout ça. C'est Jack London, là, que j'ai relu pendant mon voyage. Là,
oui, il y a pas mal de Jack London, L'appel de la forêt. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai fait un petit tour avant de commencer, parce que vous avez beaucoup de livres dans les toilettes.
Ouais.
Et donc, L'appel de la forêt est dans les toilettes.
Ouais. L'appel de la forêt dans les toilettes, mais voilà, comme quoi, il n'y a pas du tout de... C'est pas les toilettes avec les trucs dont on n'a rien à foutre. Il y a plein de livres que j'adore dans les toilettes, parce qu'on n'a pas encore la vraie bibliothèque.
Il doit y avoir 300 livres dans ces petites toilettes. Il y a de la poésie, il y a de la philosophie, il y a beaucoup de romans. Et puis là-bas, je vois Watership Down de Richard Adams.
Ouais.
Vous nous en parlez un petit peu, c'est des histoires de lapins.
Oui, alors en fait, c'est un truc absolument génial. C'est comme si... Ouais. Je sais pas comment l'expliquer parce que c'est pas du tout comme Alice au pays des merveilles, des choses comme ça. C'est-à-dire que les lapins sont vraiment des personnes, mais ne sont pas en décalage. Y a pas d'anthropomorphisme. C'est-à-dire que c'est vraiment comme si les lapins avaient une conscience et qu'on est sur une histoire d'un monde qui se passe chez les lapins, avec une société de lapins, avec des problématiques de lapins, mais qui font bien évidemment, et c'est tout l'intérêt, un espèce d'écho à notre condition d'humain et à nos sociétés, à
leur territoire,
à nos problèmes d'ego, il y a des problèmes d'ego, il y a des problèmes de territoire, des problèmes de nourriture, il y a des problèmes d'émigration et d'immigration. Et c'est un roman à pic, c'est comme un western avec des lapins, un peu quelque part. Donc, ça, quand on dit un western avec des lapins, on sourit et on a l'impression que c'est décalé, mais c'est pas si décalé que ça.
Non.
En fait, c'est pas du tout, et c'est l'intérêt de ce livre là. C'est pas ni un truc pour disneyifier, ce qui peut m'intéresser par d'autres moments, de quelque chose de faire pour enfants féerique. C'est vraiment quelque chose qui est très adulte finalement et qui passe par cette métaphore là. Pour se rapprocher encore des fois finalement quand on a les choses trop près de nous, c'est-à-dire qu'on raconte des choses sur les humains, et ben on se dit c'est pas moi. Et là quand c'est tellement éloigné, ben finalement on est encore plus proche du récit et des personnages. C'est ça le tour de force de ce livre-là.
C'est pas non plus une fable.
C'est pas vraiment une fable. Ça
c'est
pourrait.
Culte et c'est en culte. Angleterre.
Ouais,
en fait.
Et ici ça a jamais marché.
Il y a eu
plusieurs tentatives,
notamment la dernière chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui est un éditeur qui fait des livres magnifiques. Il a marché correctement, mais c'est vrai que c'est pas devenu une raz-de-marée comme ça l'est.
Acheté cette édition-là aussi. Il y a Flammarion qui l'avait sorti également. Moi, c'est comme ça que je l'ai découvert il y a 7 ou 8 ans. Et effectivement, complètement culte chez les Anglo-Saxons et chez nous moins.
Watership Down de Richard Adams. Avec les lapins, on va se quitter avec les lapins. Ça chouette.
Les lapins, c'est bien. Hein. Les lapins.
Merci
ils ont
beaucoup.
Leur terrier et moi j'ai mon terrier avec la péniche. Puis parfois je.
C'est côté castor ça.
C'est le côté. On a un petit.
Petit castor qui traîne.
Il vient là, il vient nous déglinguer les bambous là de temps en temps avec ses grandes dents là.
Bon courage avec lui et merci beaucoup Mathias.
Avec plaisir, merci.
Et je rappelle Le Guerrier de Porcelaine, c'est chez Albin Michel, merci à Mathias Malzieux. Philippe Delerme, je vous ai déjà demandé la dernière fois comment étaient rangés vos livres, donc je vous laisse tranquille. En revanche, je vais vous demander de nous parler des libraires, dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est livre.
Nicolas Caro.
La Voix est livre continue toujours avec Philippe Delerme et nous partons chez Christophe Daniel à la librairie La 25e Heure, tout de suite maintenant. Bonjour Christophe Daniel.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous accueillir à la 25e heure. Deux livres aujourd'hui, deux coups de cœur, un français, plutôt une française, et puis un roman étranger dont on va parler, je sais que vous l'aimez beaucoup. Mais on commence par la française Julia Deck. Ça s'appelle Monument National aux prestigieuses éditions de Minuit.
Voilà, donc Julia Deck, Monument National. Alors ce Monument National, c'est Serge Langlois. Serge Langlois, c'est un acteur connu, reconnu, adoré, enfin un monstre sacré du cinéma français, qui vit dans un château pas loin de Paris, avec toute une armada, la nurse, le chauffeur, le coach. Il est marié avec une ancienne Miss PACA. Voilà, et donc c'est cette vie dans le luxe qui nous est décrit dès le premier chapitre. Mais au second chapitre, on fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelle Sandrine Barou. Et cette Sandrine Barou, elle est en cavale en fait. Elle est partie du domicile conjugal en emportant son fils, Marvin. Et elle s'est refait une nouvelle identité, un nouveau look. Et elle est caissière au Super U de Blanc-Mesnil. Alors évidemment, ces deux personnages vont se croiser au fil du récit et avec des intrigues que je ne vous dévoilerai pas. Sandrine Barou va se retrouver au service de Serge Langlois. Et voilà, c'est une satire sociale féroce et drôle. Et voilà, je vous en recommande chaudement la lecture. C'est vraiment très, très réussi.
Un roman court, vif, à peine 200 pages. Ensuite, donc, le coup de cœur de roman étranger, c'est John Kalman Stephenson. On en parle beaucoup en ce moment, c'est chez Grasset et ça s'appelle « Ton absence n'est que ténèbres ». Et il y a la petite vignette « La 25e heure » dessus, comme sur Monument National d'ailleurs.
Exactement. Alors effectivement, John Kalman Stephenson, on l'a découvert en France il y a une dizaine d'années avec notamment un roman magnifique qui s'appelait « Entre ciel et terre ». Et alors celui-ci, je trouve qu'il est vraiment à l'apogée de son art. Donc là, on est sur un roman de 800 pages à peu près, dans un village près d'un fjord à l'ouest de l'Islande. Le roman démarre dans une église où un homme se trouve dans cette église sans savoir ce qu'il y fait, savoir qui il est. Visiblement, il a totalement perdu la mémoire. Il sort de cette église, il longe le cimetière où il va lire quelques épitaphes. Et en sortant du cimetière, il aperçoit une jeune femme qui se dirige vers lui et qui lui dit « Je suis surprise et heureuse de te revoir parmi nous ». Voilà, alors ça va être le début pour lui. En fait, Stephenson, c'est un raconteur d'histoires. Donc, il va nous raconter une multitude d'histoires. C'est vraiment cette phrase de Whitman, « Je contiens des multitudes ». Et bien, Stephenson, il contient des multitudes et il va nous les raconter dans ce magnifique roman avec une écriture très lyrique, poétique. Comment dire, c'est une sorte de saga, mais saga des destinées intimes. C'est somptueux, avec, ce qui ne gâte rien pour le lecteur que je suis, toute une liste de morceaux de musique à la fin. Ces morceaux, en fait, font partie intégrante du récit. C'est-à-dire que ce n'est pas l'auteur qui nous dit « voilà ce que j'ai écouté en écrivant mon livre ». Elles sont vraiment au cœur de l'histoire et de cette multitude d'histoires où on navigue dans le temps, dans l'espace. C'est vraiment magnifique, pour moi, le grand roman de la rentrée littéraire de janvier.
Waouh, le coup de cœur de Christophe Daniel, ça vaut de l'or. « Ton absence n'est que ténèbres ». Donc, de Stephenson, c'est chez Grasset. Et puis, Julia Deck, Monument National aux éditions de Minuit. Merci beaucoup, Christophe Daniel.
Merci, Nicolas.
Retour à Europe 1, toujours avec Philippe Delerme, qui est là. Philippe Delerme, vous, j'imagine que les libraires sont vos amis. Enfin, je veux dire, vous avez été porté par eux, vous les aimez. Il y a une librairie que vous préférez ou pas?
J'ai été porté par eux, c'est vrai. Pas tout de suite, hein, parce que pendant très longtemps
oui,
aussi.
Oui, pour rappeler que ce n'était pas votre premier livre, la première gorgée de bière.
Non, c'était le 13e et pendant longtemps, je me cherchais un peu dans les librairies. Parfois, j'interrogeais très benoîtement le libraire pour savoir si mes bouquins se vendaient un peu. J'aurais dû savoir qu'ils ne se vendaient pas vraiment.
Parce mais ils savaient que c'était vous.
Ah non.
Non.
Non, 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 ils savaient. Alors ça, c'était pas parfois...
Vous avez fait le coup de... Est-ce que vous avez le dernier
oui.
Philippe Delerme?
Ah ben ça... Très souvent, mais très souvent, bon, je ne le fais plus, mais j'ai fait souvent, avec le sentiment aussi de prendre un risque comme ça, c'est terrible, c'est face à face. Il y a certains qui étaient super sympas à la fin, d'autres moins, enfin, il y a eu tous les cas de figure possibles. En tout cas, les libraires, ils m'ont donné un sacré coup de main en 97, qui est la date où j'ai publié la première gorgée de bière, mais aussi où j'ai eu, pour un autre livre, le prix des libraires, précisément. Et en fait, je pense que c'est en partie à cause de ce prix des libraires que les libraires se sont très bien occupés de la première gorgée de bière, parce que c'était un livre qu'ils avaient décerné un prix, alors que par ailleurs, il n'y avait eu aucune presse sur ce livre, qui s'appelait Sunburn ou les jours de lumière, mais ça avait retenu un peu l'attention des libraires, et je pense qu'il y a une chose très spéciale qui s'est passée avec la première gorgée de bière, qui était un des premiers exemples du vrai bouche à oreille, quoi, de trucs qui se passent comme ça, C'est-à-dire que avant même qu'il y ait le premier article sur le livre, il y a eu une réimpression du livre. Il n'avait pas été tiré à une quantité fantastique d'exemplaires, mais il y avait eu 2500 exemplaires. Il y avait eu besoin quand même d'un retirage sans du tout que les médias s'en soient emparés. Et ça, bon, forcément, c'était soit les représentants de Gallimard, soit les libraires. Et les libraires ont joué un vrai rôle pour moi à ce niveau-là.
Et le dernier prix des libraires a été attribué à Miguel Bonnefoy pour Héritage, très beau livre. Et il est l'heure d'accueillir Sébastien Bordeneuve et ses bandes dessinées.
Europe 1, 14h, 15h.
La voix est libre.
Et bonjour Sébastien.
Bonjour.
Deux bandes dessinées aujourd'hui, deux albums, lesquels ?
Eh ben le premier album est un très bel objet, un objet d'art si j'osais, et d'ailleurs j'ose. C'est Le poids des héros de David Sala, publié chez Casterman. Une BD de 32 cm sur 24, j'ai mesuré. Le style est déroutant, il faut un peu de temps pour se faire à l'ambiance, tant les dessins aquarellisés en gros plan sont hypnotiques. Et ce graphisme déroutant va servir parfaitement un récit poignant, celui de sa propre histoire. Une histoire avec de la légèreté quand il raconte ce fameux soir où, enfant, devant la télé, il fallait posséder les fameuses lunettes rouges et bleues qu'on trouvait dans un télé 7 jours pour voir chez soi un film en 3D.
Ça s'appelait à Philippe Delerme, je vais
dire. L'étrange créature du lac noir. Pas de bol, leur télé à eux était en noir et blanc, les lunettes n'ont servi à rien. La légèreté des souvenirs d'enfance donc, mais aussi le poids des héros du passé, à savoir ses deux grands-pères, l'un rescapé du camp de Mauthausen, qui a mis un point d'honneur à mourir après Franco, et l'autre également héros flamboyant de la résistance. La BD raconte avec force les années qui s'écoulent et cette filiation qui peut paralyser, comment réussir à vivre avec de tels aïeux et surtout comment s'autoriser à tracer son propre chemin. Voilà une BD bien réussie pour plein de raisons que je vous offre du coup, Philippe Delerme.
Ah, carrément.
Oh, carrément, en espérant qu'elle vous plaise.
Deuxième bande dessinée signée Madeleine Martin et Véro Caso, publié chez Fluide Glacial, qu'on adore. Mais quel est le titre ?
Eh ben, le titre, c'est « Et toi, quand est-ce que tu t'y mets ?» Alors, cette question ne vous est pas directement adressée, Nicolas. Cela dit, on pourrait, à propos des suites à capuche ou du kebab, quand est-ce que tu t'y mets, Nicolas ? Mais non, cette question est adressée à Jeanne, 35 ans, et Lucie, 20 ans. Pour toutes les deux, l'injonction est la même. Procréer, enfanter, donner la vie. Quand est-ce que vous vous y mettez, mesdames ? La BD dessine les différentes situations où la question est posée. Des petites remarques rigolotes qu'on pourrait penser inoffensives aux différentes lourdeurs toxiques. La BD raconte tout ça avec humour. Les dessins sont aussi choupinous que les triplés de Madame Figaro. Mais surtout, on prend lourdement conscience au fur et à mesure des pages de comportements qui s'apparentent parfois à de l'agression. Par exemple, cette échographie où Lucie prévient « C'est pour une IVG, on ne veut rien voir » et la personne qui fait passer l'échographie de s'exclamer « Oh, vous voyez là, la même fossette que vous, on sent déjà que c'est un sacré bout en train, vous entendez son cœur, malaise. » Voilà une BD salutaire qui nous rappelle autant les maladresses qu'on peut tous commettre que les volontés de certains de nuire à un droit fragile qu'il faut plus que jamais surveiller comme un lait de biberon sur le feu.
Merci Sébastien, vous nous rappelez les noms des deux bandes dessinées.
Et toi, quand est-ce que tu t'y mets de Madeleine Martin et Véro Caso ? C'est chez nos amis de Fluide Glacial et Le poids des héros de David Sala chez Casterman. On se quitte avec une citation BD. Le pire ennemi du marin, c'est pas la tempête, ni la vague écumante, ni le récif perfide qui déchire le flanc du navire. Le pire ennemi du marin, c'est l'alcool. Vous l'avez reconnu, c'est...
Le capitaine Haddock.
Le capitaine Haddock. Et puis, bah, pour une fois, je voulais aussi vous conseiller un compte Instagram. Si vous aimez les belles illustrations aquarellisées qui invitent au voyage et à la douceur, bah, il faut suivre Martine Delerme, une artiste de grand talent. Je ne sais pas si vous connaissez autour de la table. Mais, voilà.
Se reparler de Marguerite.
Exactement.
Chez Plon, c'est ça.
Oui.
Philippe, vous lisez des bandes dessinées ou des livres illustrés Vous travaillez à côté de votre femme d'ailleurs, elle est sur ses dessins pendant que vous écrivez
On a fait ensemble un album qui s'appelle Ici, là, qui était un petit peu le petit frère. Il y a 20 ans, on avait fait un album qui s'appelait Fragile, c'était juste au moment des Twin Towers justement, et qui était un livre un peu sur la fragilité qu'on peut tous avoir dans la vie. On a récidivé avec un livre qui s'appelle Ici, là, il y a très peu de temps, Martine et moi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, non, on travaille séparément, et comme on a un regard un petit peu, quoi, ça va bien ensemble, quoi, mais en même temps, on ne travaille pas l'un sur l'autre. Voilà.
Vous n'avez pas le même bureau ?
On n'est pas le même bureau, exactement, vous savez tout.
New York sans New York, aux éditions du Seuil, c'est le dernier livre de Philippe Delerme. Merci beaucoup, Philippe
Delerme.
À bientôt.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide, à Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée, et à Grégory Delpeuch pour la programmation musicale. Justement, rendez-vous avec Didier Barbelivien maintenant pour « Dis-moi ce que tu chantes ». Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h, 15h, la voix est libre.
Nicolas Carreau.